Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseil en communication. Beyond, c'est le podcast de la publicité, de la communication et du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Je suis Emmanuel de Saint-Bon, DG de l'agence Roxane, et nous parlons aujourd'hui de créativité. Alors, pour préparer l'édition de ce numéro, je me suis livré à un exercice vieux comme le monde, pas très créatif. J'ai interrogé quelques personnes autour de moi sur leur conception de la créativité. Je me suis fait mon propre micro-trottoir, en somme. J'ai entendu toutes sortes de choses. L'imagination, bien sûr, le duo fraîcheur-nouveauté, l'audace et même l'anticonformisme, l'interactivité. On m'a parlé de culture, on m'a parlé de travail aussi, mais oui. Et puis, bien sûr, des créateurs eux-mêmes, et la liste n'est sûrement pas exhaustive. La créativité, tout le monde en parle, beaucoup la revendiquent ou s'y essayent, peu y parviennent. Tantôt considérée comme un talent, une discipline, une technique, une culture, un savoir-faire, on voit bien qu'elle reste difficile à cerner, on sent bien qu'il est extrêmement difficile de la faire émerger, qu'en tout cas, c'est sûrement beaucoup de travail, et évidemment pas seulement du talent. Et puis on observe aussi que l'explosion du digital, on va en parler bien sûr, l'explosion du digital fait valser les frontières, et que cette explosion donne à la créativité de nouveaux terrains de jeu. Tout un programme, n'est-ce pas ? Autant de questions auxquelles je ne saurais répondre, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité trois grandes personnalités du monde de la créativité. Tiffaine Duplessis, coprésidente de BETC Full Six, Pascal Nessim, coprésident de Marcel, et Lionel Kurt, président de l'agence Monstre. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, ravi de vous accueillir, merci de vous déplacer. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser une question très simple, qu'on n'a évidemment pas préparée, sinon ce ne serait pas drôle. C'est de vous demander de me donner votre définition de la créativité. Et j'ai envie de dire, comme on dit sur Reddit, « Explain it like I'm five ». Hein, je sais que Lionel est un grand fan de Reddit. Et si cette question vous prend un peu de cours, de me donner des facteurs, individuels ou collectifs, qui selon vous favorisent la créativité. Ah !
Wow. Ah,
on n'avait pas préparé ça. Qui veut se lancer ?
Oui, bah, honneur aux femmes.
Ça, c'est un peu vache. Ça.
Ah bah tout d'un coup.
Ça, c'est un peu vache.
Je vois, je vois le genre. Je sais pas si je vais te définir du coup la créativité. En revanche, je pense que la créativité, elle naît de la rencontre. En tout cas en particulier dans nos agences digitales, de la rencontre de talents hyper variés. On parle souvent évidemment des créatifs, mais je pense que là où on est particulièrement fort dans les agences digitales, c'est qu'on est capable de mettre autour de ces cerveaux brillants et talentueux des data scientists, des planeurs, des jeunes qui connaissent tout au social media, et que c'est la rencontre de tous ces gens qui va faire émerger de nouvelles idées.
Des métiers très variés en fait, hein.
Exactement. Je pense que ça, c'est un des éléments clés. La deuxième chose que je trouve assez chouette, c'est la contrainte. C'est qu'on dit souvent, et on sait, hein, c'est une phrase très connue, mais je pense que c'est assez réel dans nos métiers. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est pas plus créatif que quand on est dans un format contraint, quand on est dans le digital et qu'on doit rentrer dans quelques caractères, 15 secondes, un email ou un bout d'interface.
Contrainte de format ou une contrainte juridique sur la santé, sur les spiritueux.
Il n'y a pas que le format, mais je trouve que ça fait partie des petits challenges un peu excitants.
Donc la difficulté permet d'augmenter cette créativité.
Je pense que ça, c'est chouette.
Les garçons, Lionel, Pascal, qu'est-ce que vous pourriez dire un peu pour introduire cette émission ?
Alors, je suis totalement d'accord avec ce que vient de donner Tiffaine comme définition. J'ajouterais que je pense que comme facteur propice à la créativité, il y a la culture. Et je pense que chacune de nos agences et des agences en général a quand même une typologie de créativité. Donc, au-delà des rencontres individuelles, bien sûr, et variées, qui favorisent, on va dire, l'émergence des idées, il y a ensuite cette culture qui peut définir peut-être un BETC Full Six, une agence comme Marcel ou comme d'autres grandes agences.
Donc, qui peuvent avoir des cultures un peu différentes, c'est ça que tu veux dire ?
Ah, je pense qu'il y a des cultures totalement différentes. En tout cas, si on prend des extrêmes, oui, totalement différentes. Bien sûr, il y a des agences qui se ressemblent sur le marché, mais dans la palette des cultures qui sont disponibles à la fois pour les talents, à la fois pour les annonceurs, je pense que c'est très varié. Et on le ressent bien quand on les rencontre une première fois. Ils rentrent généralement par la culture. Et ensuite, sur la créativité, justement, moi, je reviens à cette notion de culture et donc de patte créative. Je pense que chez Marcel, ce qui nous définit au-delà de la créativité, finalement, c'est l'audace. Donc, c'est ce qu'on va chercher à chaque fois. C'est essayer d'être audacieux, bold, voilà. C'est ce qui fait aussi notre patte à la sortie. Quand on présente l'agence, on la présente vraiment par ce prisme-là. Ça ne veut pas dire qu'on est que ça.
D'accord. Alors, vous soulevez déjà des points intéressants. Je voudrais entendre Lionel sur cette question un peu de but en blanc. Mais vous avez déjà soulevé des points sur les métiers, les talents, la culture, l'audace. On va y revenir, évidemment, pour cerner cette...
Non, mais si je peux ajouter quelque chose peut-être complémentaire, c'est qu'en fait, ce qui a défini, à mon sens, en tous les cas, ces dernières années, on parle beaucoup de culture, la culture du digital, mais en fin de compte, c'est l'interaction qui a été créée par le digital. Et on se rend bien compte qu'on est passé en 10, 20 ans à une créativité en fait qui était empreinte d'une interactivité avec le public, c'est-à-dire d'une créativité qui a été descendante pendant de nombreuses années parce que finalement la technologie,
la télé, la radio,
le message descend. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la créativité finalement elle est une sorte de ouais, je dirais de mélange hybride entre ce que vont pouvoir ajouter les consommateurs, qui ont souvent quelque chose à apporter aux marques également, et finalement on ne fait plus une campagne, on ne fait plus un dispositif pour les consommateurs comme on l'a fait pendant des années, mais plutôt avec, et qu'on se rend bien compte que dès lors où on déploie un dispositif, eh bien, il y a un moment donné où il y a une contribution. On l'a vu, on a utilisé plein de termes pendant des années, hein, le user-generated content,
absolument.
L'interactivité, mettre en place des concours. On parlait tout à l'heure de formes différentes de créativité, mais j'ai vu dans toutes nos agences, là, il nous arrive d'organiser parfois des choses qu'on peut qualifier de créatif et qui ont en rien un format narratif linéaire. Un jeu concours intéressant peut aujourd'hui devenir...
Alors, on va y venir dans une minute, parce qu'on va évidemment parler des formats. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Régis, sur ce dernier point, Lionel, c'est que tu parles d'interactivité, et à bien t'écouter, cette interactivité se manifeste aussi bien avec les interfaces que nous sommes capables de concevoir et de créer, les expériences que nous créons, mais aussi avec la foule, avec les gens. Ça veut dire qu'on intègre désormais dans nos conceptions de campagne le rôle de la foule, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. C'est deux formes d'interaction différentes.
Elle est à la fois cette interactivité transversale, c'est-à-dire que nos consos parlent vraiment... Et d'ailleurs, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait que le one-to-one, finalement, ne marchait plus, parce que dès lors où, à un moment donné, tu n'arrives pas à créer des micro-communautés, des gens qui discutent entre eux, alors il n'y a pas ce dialogue, il n'y a pas ce truc avec la marque. Donc, le pur one-to-one, finalement, ça revient à isoler les gens. Donc, à un moment donné, non, les communautés, on voit avec la résurgence en ce moment de micro-communautés sur n'importe quelle plateforme, tu vas sur TikTok où tu te rends compte que, avant de dire, il y a la communauté mode. Aujourd'hui, dans la communauté mode, il y a, je ne sais pas, 20, 30 sous-cultures de gens qui s'agrègent sous des micro-communautés. Et ça devient intéressant parce que ça signifie qu'à un moment donné, c'est avec ces gens-là qu'on fait l'acte de création avec la marque.
Ça veut dire que ça suppose, mais là on va enfoncer une porte ouverte, ça veut dire que ça suppose la créativité d'aujourd'hui à l'ère du digital, avec ses multiples formats et ses multiples supports, suppose de connaître bien plus précisément des cibles, des comportements, des mèmes, comme on dit, des références culturelles pour inspirer les campagnes, c'est ça que ça veut dire ?
Ah ouais, je crois tout à l'heure Pascal lui parlait de culture et d'ADN. On se rend compte que certains de nos métiers, notamment dans le planning stratégique, etc., sont des gens qui aujourd'hui, je sais pas si on peut parler encore d'agences digitales, c'est des agences à l'ADN ou à la culture, tu te rends compte que ça emprunte. Tu disais, en un coup d'œil, on arrive à voir finalement entre les agences, quelle est la culture de l'agence. On voit bien, je suis assez convaincu que nos départements de planning stratégique ont une manière d'aborder cette culture digitale, baigne dedans, la pratique, et donne un regard différent et des insights différents pour que nous, on puisse ensuite travailler et faire, si j'ose dire encore cette vieille phrase, le saut créatif.
On va parler de culture, évidemment. Je voudrais qu'on tire un peu le fil et qu'on investigue ces formats nouveaux de créativité. À vous écouter, je comprends qu'elle peut se loger partout, plus seulement dans des campagnes bien cadrées, un 15 secondes, un 30 secondes ou un 4x3, et que cette créativité peut s'exprimer, non pas simplement dans un email ou dans un site web, mais sur bien d'autres touchpoint, bien d'autres contacts avec les... Je vois Pascal qui opine du chef. Bien d'autres contacts avec les clients ou les consommateurs, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est, je pense, ce qui fait aujourd'hui la richesse et la magie de notre métier. C'est qu'on a, comme le disait Lionel, on peut s'adresser à des audiences bien spécifiques, qui répondent à des insights très spécifiques. Et donc, développer des messages qui peuvent être un simple tweet, un simple email ou un contenu vidéo ou une campagne plus massive même autour de ça. Donc, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans l'évolution par rapport à ce qu'on racontait, c'est qu'on est quand même passé d'une époque où on se disait il y a une licence créative qui permet de mentir. Voilà, où en fait on pouvait raconter n'importe quoi puisque c'était très top-down. Et on se disait, on est créatif, c'est un peu comme le cinéma, quoi. On est dans de la fiction, donc on peut raconter n'importe quoi. Ça a duré des années. et le digital est arrivé, les avis conso, les réactions, les commentaires, les enchoqués, etc. Et combien de fois autour de nous, dans un plainsboard, c'est-à-dire le moment où les créatifs nous présentent des premiers jets de d'idées, combien de fois on se dit « Ah ben non, on peut pas dire ça, on va se faire matraquer, quoi !» Alors que avant, ils s'en foutaient, quoi. Ils balançaient ça à la télé, personne ne pouvait rien dire.
Oui, c'est vrai qu'il y a un impératif, on est sous surveillance, quelque part.
On parlait de contraintes tout à l'heure, alors là, les contraintes, c'est pareil, l'évolution des contraintes, elle est énorme, puisqu'il y a toutes les contraintes sociétales aujourd'hui, tout le rôle de déconstruction que la publicité doit porter. C'est-à-dire, on peut considérer que la publicité, finalement, a travaillé d'une certaine manière pendant des années et a construit elle-même des stéréotypes qu'on retrouve dans le cinéma, la littérature, etc. Et aujourd'hui, je pense que il y a la contrainte de déconstruire ça. Et on le voit, c'est pareil, dans notre regard créatif, on cherche tous un rôle positif à la publicité, pour quelle que soit la marque, de sens.
De sens, nouvelle contrainte.
Porteur de sens,
aussi.
C'est dire aujourd'hui, on ne peut plus faire une campagne s'il n'y a pas un minimum de sens, tu n'arrives pas à injecter ton...
Et créativement, c'est intéressant, parce que c'est aussi un nouveau terrain de jeu, c'est-à-dire d'arriver à faire des campagnes qui ont un peu de sens aussi pour le rôle des marques. Dans...
Oui, en espérant quand même qu'on puisse garder de la légèreté, de la fiction, de l'invention.
Tu le fais toujours, tu peux toujours le faire, je suis d'accord.
Moi, je crois que c'est même ce qui est hyper challengeant en ce moment. Moi, je trouve que, bon, ce mot, on l'a beaucoup utilisé, mais la RSE, aujourd'hui, de réussir à passer ces messages de RSE des entreprises de manière divertissante, de manière fun, je crois que c'est ce qui est le plus trippant en ce moment, vraiment, dans le métier.
C'est pas très souvent qu'on le voit quand même, la RSE, ça reste quand même... Non,
je trouve que de plus en plus, en tout cas, enfin, d'abord on le voit parce que c'est ce que Pascal le dit, en fait, on cherche à engager des publics. Donc aujourd'hui, ils nous demandent, ils en ont ras-le-bol d'un regard culpabilisant qui leur explique comment ils doivent vivre, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, etc. Donc tu as besoin d'aller engager aussi une discussion, une conversation avec les gens. Et pour faire ça, tu es obligé de passer des messages de manière beaucoup plus positive. Tu as envie de leur raconter comment ça va être chouette de faire ça ensemble et non pas... tous les drames qu'on entend tous les jours en allumant la radio. Mais je pense que c'est aussi ce... Tu disais, effectivement, on pense à... On va se faire matraquer. Moi, je pense qu'on se dit aussi... On cherche l'échange. Donc, on se dit, ça, c'est génial parce que ça va lancer une discussion, ça va faire réagir, on va construire ensemble quelque chose. Et je pense que c'est aussi ce qu'on cherche maintenant pour pouvoir avoir ce pouvoir transformatif de la communication, à engager une discussion, à engager une histoire avec les publics qu'on vise. Et ça, c'est chouette.
Ouais, tu me disais tout à l'heure comment tu arrives à... Alors, je vais citer une campagne qui a été beaucoup primée, qu'on a réalisée l'année dernière pour Guerlain, qui s'appelle le Riaverse, qui traitait de la problématique de réensauvagement de la nature, parce que Guerlain, le symbole de Guerlain, c'est l'abeille, hein, c'est la base de tous les produits de Guerlain. Et on a réussi à un moment donné à utiliser à la fois des nouvelles technologies, si j'ose dire, les NFT, donc la capacité finalement à être hyper innovant, tout en étant, en ayant un discours extrêmement entertaining, positif, participer au réensauvagement de la vallée de la Millière qui est détenue par Yann Arthus-Bertrand, acheter une abeille et voilà les caractéristiques que vous allez à un moment donné avoir sur cette abeille. Et on aurait pu le traiter tout autrement en disant les gars, si on se bouge pas très très vite, c'est fini, il y a plus d'abeilles, il y a plus de nature, c'est fini.
D'accord.
Le tourner en positif, je trouve que c'est hyper exaltant en ce moment dans nos métiers.
C'est sympa dans cette campagne. C'est sympa parce que vous avez ajouté très clairement, et on va y venir, une dimension techno-forte, hein, avec des jetons non-fongibles en français, des NFT. Il faut aller le chercher quand même. Hein.
Justement, je crois que c'est peut-être ça aussi la culture du digital. C'est pas utiliser la technologie pour la technologie. C'est utiliser à un moment donné la technologie pour qu'elle fasse de plus en plus sens et qu'elle nous aide à être plus créatifs.
Mais j'ai envie de dire, facile à dire, la technologie aujourd'hui, elle a une culture tellement composite, polymorphe, évolutive, il faut maîtriser la technologie parce que les champs d'expression sont multiples. Alors, comment on fait quand on a des équipes qui sont des concepteurs-rédacteurs, des directeurs artistiques, des planeurs, qui sont des communicants, et là, on va chercher dans les tréfonds et dans toutes les technologies, c'est difficile, comment vous vous débrouillez pour intégrer cette dimension technologique et cette dimension data, puisque c'est lié, hein, les interactions sociales dont on parlait, elles génèrent beaucoup de data, ces data sont elles-mêmes source d'inspiration. Comment on fait ça ?
pour moi, c'est aussi ce qui change dans le visage de nos agences, c'est qu'autour de la table, quand les créatifs travaillent, il n'y a plus le classique team. Il n'y a pas uniquement un concepteur-rédacteur et un directeur artistique, comme tu le dis, mais il y a un creative tech, très souvent. Les plus belles campagnes qu'on ait fait pour Ubisoft, les plus beaux objets qui ont communiqué, c'est systématiquement dans une salle, un creative tech, un mec de la data, un copywriter, qui ont travaillé ensemble pour faire émerger un projet comme We Are Data, par exemple, qu'on avait fait à l'époque.
Alors, mais raconte-nous, justement.
Qui était un projet assez simple, c'était il y a maintenant près de 10 ans, je pense, donc ça date un peu. Donc
on est fiers.
Ça va montrer un peu mon âge, même si on n'entendait pas à la radio, c'est con. C'est assez raté. Il y a 10 ans, à l'époque où il n'y avait pas encore RGPD, etc., on avait eu l'idée pour un lancement de jeu dans le milieu du hacking pour Ubisoft, de lancer une plateforme qui réunissait absolument toutes les sources de données qui étaient accessibles de manière ouverte et de faire réaliser aux gens à quel point finalement il y avait un nombre de données absolument incroyable aujourd'hui dans une expérience assez tech. Mais le point de départ de cette idée, il ne vient pas du rédacteur ou du directeur artistique, il vient d'un tech qui dit eh « ben, attends, vous vous rendez compte, tout ce que je peux avoir comme données aujourd'hui accessibles et que je pourrais connecter dans une plateforme ». Et c'est ça le départ de la discussion entre eux. Donc je pense que c'est aussi une façon de travailler qui est très différente dans les agences par rapport à ce qu'on pouvait faire.
Mais ces creative tech, est-ce que ce sont des geeks qui sont venus à la publicité ou est-ce que ce sont des publicitaires qui sont un peu geeks et qui creusent un peu ? Qu'est-ce que c'est exactement un creative tech ? Les deux.
Les deux, bon, je veux dire.
Il n'y a pas de règle.
On a les deux. Nous, on a des créatifs qui sont effectivement des vrais geeks passionnés de tech et qui, du coup, passent leur vie à chercher des idées autour de ça. Donc, qui, en gros, s'emparent de la dernière tech qui émerge et se disent qu'est-ce que je peux faire avec ? Qu'est-ce que je peux imaginer ? Qu'est-ce que je peux inventer pour une marque ? Et dans l'autre sens, on a des ingénieurs de formation qui viennent rejoindre nos agences plutôt que d'autres endroits parce que justement ils vont pouvoir faire leur métier de manière beaucoup plus créative et beaucoup plus libre dans un sens, même si on a des formats contraints.
Et donc qui vous parle de, je sais pas, d'imprimante 3D, qui vous parle de métaverse, qui vous parle d'urbanisme, qui vous parle de toutes sortes de techno, qui vous parle de réalité augmentée et que vous mettez en exergue, que vous mettez en mouvement pour vos campagnes et pour nourrir votre créativité.
Ouais, je pense que là, tu t'adresses à trois agences, je pense, qui ont intégré ou dont la partie tech est quasiment native. Et je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, je ne vois pas comment une agence peut exister sans un département tech, avec un directeur technique, avec des codeurs. Voilà, bien sûr, le but, ce n'est pas de faire des grosses infrastructures et des back-office. Le truc, c'est d'utiliser la culture technique pour faire de la créativité. Donc, à l'agence, ils sont au milieu de la création. Ils interagissent tous les jours avec Yuri Gaëtan, les patrons créatifs de l'agence, les coprésidents. Et historiquement, voilà, ils t'amènent même des idées qui n'ont rien à voir avec la tech. Parce que c'est un regard totalement différent. Une culture totalement différente. Et pour moi, ma vision à moi, Pascal, président de Marcel, du digital et de la tech, c'est de la culture. Voilà, j'ai jamais été capable d'écrire une ligne de code alors que j'ai dirigé des agences interactives pendant des années. Mais je n'ai jamais compris quoi que ce soit au code. Par contre, j'ai bien compris la culture. Quand on fait pour Back Market le hack market, c'est-à-dire où on va hacker les Apple Store, au niveau tech, c'est zéro. Voilà, ça utilise juste la technologie native de l'iPhone qui est l'AirDrop. Mais c'est la culture de la tech qui va allumer tout ça.
Alors, je rappelle le principe, on interpellait les gens grâce à AirDrop,
on parlait d'audience, on a utilisé les gens qui vont dans les Apple Store, donc absolument. Finalement les Apple Store comme un média, donc des gens qui vont dans l'Apple Store pour acheter un produit tout neuf de dernière génération et dernier cri, et au moment où ils avaient le téléphone en démo dans l'Apple Store, ils voyaient une pub Back Market, voilà, qui leur expliquait par une démonstration sur la consommation, le CO2 de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc il y avait plusieurs messages comme ça qui faisaient prendre conscience aux gens que c'était pas forcément une bonne chose d'acheter ce produit-là à ce moment-là.
Faut oser le faire quand même. On retrouve l'audace dont tu parlais.
Parce que là... Alors il y a l'audace, c'est ce qui te donne dans le digital l'organique et faut pas se cacher. C'est ça la magie et l'intérêt de notre métier, c'est d'amener de l'organique à des annonceurs, de manière juste, qui nourrissent quelque chose, etc.
Mais donc, ça veut dire, pardon, je pousse un peu plus loin le sujet, ça veut dire que ces créatifs technologiques que vous évoquiez, Tiffany et Pascal, ils font
de la R&D, ils font des expérimentations en permanence. Il y a plein de trucs qui partent à la poubelle. On cherche, on gratte parce que ça évolue tout le temps. Donc, c'est un apprentissage permanent.
Ils amènent des idées.
Oui, mais ils doivent travailler pour ça. Ils doivent expérimenter, ils doivent lire, ils doivent... Enfin, c'est une culture qui est constamment nourrie dans les agences.
Bah, c'est la culture de la tech. Un développeur, il s'auto-nourrit tout le temps. C'est des gens curieux de tout. C'est vrai que quand un phénomène comme les IA arrive, bah, c'est magique d'avoir ça dans une agence. Ça te fait gagner un siècle sur ceux qui ne les ont pas. Donc, c'est juste incroyable. C'est ce qui nous permet... de gagner de la productivité au global dans toute l'agence. Deux, de se projeter jusqu'où ça peut aller, quelle place ça peut prendre, comment se préparer pour l'intégration de l'IA dans notre métier.
Absolument.
Voilà.
Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a vraiment vécu tout cela, des révolutions. Quand elle démarrait, elle était un espèce de tsunami. Après, vous savez, le fameux hype cycle de Gartner, où à un moment donné, tu te dis, bon, on va se calmer, il y a eu peut-être un emballement, mais que ça soit, quand tu réfléchis bien, tu parlais tout à l'heure d'imprimantes 3D, à un moment donné, il y avait les magasins ouvraient partout d'imprimantes 3D, à un moment donné, on a parlé, alors c'était le changement, le brand content, c'est la mort de la publicité, etc. On se rend compte qu'il y a plein de révolutions qui forgent aussi notre culture. Cette culture d'être intéressé, d'être aux aguets. On parlait des NFT, des métaverses, qui aujourd'hui d'ailleurs sont... où le soufflet retombe un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement morts. Ça veut dire qu'on doit absorber ces évolutions. On doit, à un moment donné, même si le mot n'est pas très beau, les maturer un petit peu et après, on les utilise dans notre année. Je pense que c'est ça qui est intéressant.
Sur la culture NFT, par exemple, on se dit, on voit ça arriver tout d'un coup. Et puis tous les annonceurs arrivent et te disent « Pascal, pourrais-tu nous faire une présentation sur l'NFT ?» ou « On aimerait bien faire une opération avec du NFT. » Ils sentent que c'est la mode et donc ils ont envie d'en goûter. Et nous, on est là, on se dit « C'est quoi ce truc ?» Franchement, tu vois, c'est dur quand ça t'arrive la première fois dessus.
Absolument.
Et finalement, et c'est là où j'en reviens à la culture, tu te dis « Bon, tout le monde en parle, ça prend. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. Moi, je ne comprends rien, etc. » Et on a mis, par exemple... toute l'agence en vente par des NFT. Donc, chaque profil a créé son NFT, a mis son sous-jacent, a créé son wallet, a mis son NFT dessus, a mis le prix qu'il voulait en mettre dessus. Et cette démarche-là, elle est à la fois pour faire de la com' sur l'agence avec beaucoup d'autodérision sur le sujet de ce qu'est une agence et des NFT. Donc, on rigole, voilà. On rigole de nous-mêmes et on rigole de cet engouement pour les NFT. Mais surtout,
c'est expérimental.
Mais surtout... à 180 personnes qui ont pris le vernis du NFT, qui ont compris comment ça marchait, comment tu y accédais, comment tu pouvais en créer, comment tu pouvais les coter, comment elles pouvaient s'acheter, se vendre, c'était quoi la définition d'un NFT, qu'est-ce qu'on mettait dedans, etc. Donc c'est ça notre rôle à nous, voilà. Ensuite, ça fait pchit, bah c'est pas grave.
Alors ça rejoint, on va parler évidemment des IA génératives parce que c'est un sujet qui est d'actualité et qui nous concerne tous. En t'écoutant Pascal, je m'interroge, vous qui êtes des présidents d'agence, sur... ce qu'il est possible de faire pour favoriser, susciter cette culture de la créativité, et pas seulement chez les créatifs, parce qu'il peut s'agir de n'importe quelle fonction. Est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est de l'exemplarité? Est-ce que c'est du travail, tout simplement? Est-ce que c'est de l'expérimentation et de la R&D, comme le font les labos? Comment est-ce qu'on fait pour rester? Tout à l'heure, vous parliez de la hype qui se lance. Moi, j'avais lu, il y a 10 ou 15 ans, un bouquin qui s'appelait « Crossing the Chasm » de Jeffrey Moore. Et il expliquait justement que les innovations avaient toujours trois cycles. Un premier cycle de hype, d'émerveillement, et puis un cycle de consolidation où on tombait un peu dans l'oubli. On se souvient de Second World, on se souvient de ce que tu viens de dire sur les métaverses. Et puis enfin, une phase de maturité d'adoption. Donc, on voit bien que le timing est vachement, vachement important. Qu'est-ce qu'on fait dans les agences pour rester à la marge, pour rester, pardon, à la page et être créatif? Il y a des trucs, il y a des méthodes, il y a des attitudes sur la créativité?
Je pense là, et en tout cas, j'imagine que c'est le cas là pour mes confrères, mais en interne, oui, sans arrêt. J'aime pas le mot formation.
Tu les bouscules,
Non, on partage. Petit déjeuner, Martin, qui est le spécialiste aujourd'hui, ou qui a étudié à fond les NFT, va partager avec vous ce qui se passe. J'imagine que chez BETC Full Six ou chez Marcel, c'est la même chose. C'est-à-dire, sans arrêt, brasser les idées, et puis essayer de les imprégner dans l'agence, essayer d'imprégner cette culture, et dire, bah, même chose sur le gaming, en ce moment, nous, bon, beaucoup de personnes prennent la parole, on invite aussi... des acteurs qui sont là-dedans, comme les plateformes, qui sont souvent aussi acteurs de ça. Les plateformes, j'entends les Meta, les TikTok, oui, il faut sans arrêt brasser ces idées, brasser cette culture. Et ça, elle est faite par l'échange permanent avec nos équipes, le benchmark permanent, aller aussi humer ce qui se passe peut-être un petit peu. Tu disais tout à l'heure que j'étais un petit peu fan de Reddit. C'est vrai qu'il y a certaines plateformes qui sont moins prisées en France, mais qui aux États-Unis le sont énormément ou dans d'autres pays. Et c'est source finalement de changements géniaux, quoi.
La formation, pour moi, c'est pas un gros mot du tout. Et d'ailleurs, de la même manière que ce que tu fais chez toi, Lionel, on le met évidemment en place. Évidemment qu'on a des programmes de formation. On a créé un truc qui s'appelle le Non-Stop Learning. Chaque année, on a 5 nouveaux modules qui sont proposés à l'ensemble des collaborateurs. Ouais. Et j'insiste là-dessus, c'est l'ensemble des collaborateurs. Donc, on demande aux gars de la finance de faire la formation sur, non, mais sur l'IA, comme le commercial, comme le... Je sais pas quoi. Mais, et c'est toute l'agence qui suit ce truc-là. Et donc, ce qui veut dire que dans une salle, on a plein de profils qui se retrouvent autour d'une formation, qui se mettent à échanger sur ce que ça leur inspire. Et donc, ça crée quelque chose d'hyper stimulant. Et après, la deuxième chose dans laquelle je crois beaucoup, et je trouve que, du coup, ce qu'a fait Marcel est assez génial, c'est l'expérimentation. Mmh. Et donc, effectivement, on a aussi pas mal de choses qu'on met en place à l'agence pour que les gens aillent y mettre les mains dans ce qui est en train de se passer. Donc, on a plusieurs formats. On a un format qu'on appelle Open Brief. Donc, le brief, il est ouvert à tout le monde. Et pareil, il est ouvert à tout, pas qu'aux créatifs.
Ceux qui veulent,
tout le monde peut y répondre.
C'est génial, ça.
Et j'ai des idées de commerciaux et j'ai des idées de gars de la data. Beaucoup d'idées de gars de la data.
Et on s'en fout.
Et on a fait un dernier truc, on a fait un programme d'intrapreneuriat. Et ça, on s'est rendu compte, alors encore plus parce qu'on a des talents qui changent et des attentes de nos talents qui changent.
Alors, c'est-à-dire, intrapreneuriat, vous favorisez l'émergence.
On fait chaque année ce qu'on appelle un full sprint. Donc, on joue, comme vous le voyez, de manière très créative avec le nom de l'agence. En fait, c'est un espèce de système un peu de hackathon. On propose à toute l'agence de pitcher des idées qui leur tiennent à cœur sur des thématiques qu'on donne, évidemment, qui nous intéressent par rapport, encore une fois, à l'exploration de nouvelles technologies, à des sujets qui nous concernent, soit pour nos clients, soit pour l'agence en gain de productivité, parce qu'elle en parlait. Tout le monde pitche ses idées, on vote pour la meilleure idée, et ensuite, ils sprintent, ils sont en ce moment d'ailleurs en footprint, c'est la deuxième journée. Ils ont 2 jours pour sprinter et affiner avec une équipe qu'ils assemblent, idem, équipe assemblée avec plein de profils dans l'agence. Ils affinent leurs idées, ils présentent à l'ensemble de l'agence, et puis on choisit l'idée qui va être incubée pendant un an.
Et qui peut donner lieu à la création d'une structure
ou d'un service ou d'une marque. Exactement, l'année dernière, le projet qui a gagné s'appelle Impact Général. C'est un jeune qui travaille, on suit évidemment un des gros sujets qui nous concernent, c'est l'impact de nos métiers. Hein. Donc, la pollution numérique, c'est quand même un énorme sujet. Moi qui bossais pour Air France pendant des années, à un moment donné, ça te fait un peu peur quand tu dis que finalement, on pollue plus que les compagnies aériennes. Donc, il y a peut-être un sujet à prendre en compte. C'est évidemment un sujet qui est très important pour l'ensemble des équipes qui se sentent très concernées par le sujet et qui s'interrogent vachement sur le sens de nos métiers. On se parlait tout à l'heure de transformation. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Et donc, le projet qui a gagné s'appelle Impact Général. Et c'est une plateforme qui vise à mesurer à l'échelle de l'agence, mais à l'échelle individuelle, nos impacts numériques, donc nos devices, les mails, les conf calls, etc.
On retrouve le sens. Alors, on retrouve le sens, on retrouve la culture. Moi, à vous écouter, on voit bien que c'est aussi une question de travail, tout simplement.
Ça, c'est sûr.
Enfin, il y a la question du talent. Vous connaissez la parole de Brel, hein, le talent, je ne sais pas ce que c'est, je connais le travail, mais c'est beaucoup de boulot ce que vous racontez. C'est toute une démarche d'agence volontariste.
Juste pour finir sur le sujet de la formation. Et je suis parfaitement d'accord. Et je pense que toutes les agences, aujourd'hui, en tout cas sur tout ce qui est technologique, s'auto-forment, puisqu'il n'y a pas de formation qui existe, je pense, pertinente pour nous sur le marché, sur l'IA par exemple. Donc tout le monde prend ça en main. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, je les invite vraiment, quand ils rencontrent une agence, à poser la question de c'est quoi vos programmes de formation, enfin votre culture là-dessus, etc. Parce que c'est vachement, vachement, vachement important aujourd'hui. Et ensuite, au-delà de la formation, je pense que ce dont on a beaucoup besoin aujourd'hui, c'est de reconnecter des générations. Donc, nos agences, c'est pas compliqué, elles sont dirigées généralement par des gens qui ont un certain âge. Et puis, les talents qui arrivent, ils ont entre 20 et 30 ans, c'est la Gen Z, comme on dit. Et donc, c'est important, je pense, c'est de la formation dans l'autre sens.
L'inversion du modèle du sachant.
Exactement.
On a plein de choses à tirer de cette génération.
Beaucoup d'humilité pour nous, les dirigeants, devant ces gens-là. Et surtout, je pense que le succès des agences dépendra de la place qu'on leur fait aujourd'hui dans les agences. Et quand je dis la place, bien entendu, Emmanuel, je ne parle pas d'une table et d'une chaise, je parle de la place dans la gouvernance des agences, parce qu'il y a le point de vue publicitaire, entre guillemets, qui a radicalement changé en relativement peu de temps. Et ensuite, il y a bah, la sensibilité au métier. On a tous, pendant des années, dit « Ah, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à recruter ». Il y a une réalité, c'est que le métier de publicitaire, autant il y a 20 ans, tu arrivais, tu disais « Je suis dans la pub, j'imagine, tout le monde ouvrait les yeux grands comme ça, bon, raconte, etc. » Aujourd'hui, il y a une défiance vis-à-vis de ce métier-là. Alors, c'est pour ça que c'est important de le réinventer et que la formation, ce n'est pas que technique, c'est aussi sur voilà, la responsabilité de notre métier aujourd'hui.
Deux remarques rapides, et puis on va parler des IA, parce que visiblement, ça vous démange. Un témoignage très rapide, si vous me le permettez. On avait, très modestement chez Roxane, mis en place un format de lightning talk, c'est-à-dire que l'un d'entre nous prenait un sujet volontairement, qui l'intéressait ou qui le maîtrisait, qui venait témoigner auprès des autres. Et je me souviens, c'était Léo Carli à l'époque, je le salue s'il nous écoute, il nous avait emmenés sur le dark web. Et on avait tous téléchargé Thor Onion et on avait visité les boutiques qui vendent de la beuh, qui vendent des armes, qui vendent des cartes d'identité, qui vendent, et plus encore, c'est assez effrayant. Et c'était super, sauf que ça a été un one-shot, on se souvient de ce truc-là, puis la pratique, l'adoption a été extrêmement compliquée. Première remarque. Deuxième remarque, puisque tu parles de la Gen Z. Et là, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'état d'esprit. Je vois des tempes grises qui sont curieux, expérimentants, enthousiastes. Et à l'inverse, pardon pour le, je vois des jeunes gens de 25 ans, ils sont intelligents, mais un encéphalogramme plat sur le sujet. Et je me dis, mais enfin, c'est comme de savoir parler, c'est comme de savoir écrire l'anglais, c'est comme de savoir faire un tableau Excel. Si vous ne maîtrisez pas ces outils niveau, et notamment l'IA, mais qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il faut qu'on vous pousse? Je suis un peu dur, mais je constate ça parfois.
Non, mais je crois que l'ADN aujourd'hui de nos agences sur la créativité, si je ressens sur la créativité digitale, c'est la curiosité. Si c'est oui, ça ton ouais, point, oui, la oui. curiosité, je pense qu'elle n'a pas d'âge, la curiosité. Et notre job à tous, j'imagine, c'est de recruter des gens curieux. Parce que finalement, on se rend compte dans le domaine dans lequel on est, où les évolutions sont tellement rapides, que si tu n'es pas curieux, tu es tout de suite, tout de suite à la rue. C'est peut-être ça, finalement, tous nos débats en disant c'est qu'est-ce qui définit aujourd'hui une créativité digitale ou des agences créatives. C'est un collectif, et qui est un collectif curieux, qui sans arrêt investit, teste, apprend, parce que ça se révolutionne. Et je pense, sans doute, alors c'est pas une opposition, mais c'est vrai que la publicité, pendant de nombreuses années, était ancrée sur un format. Nous, aujourd'hui, c'est protéiforme. Notre créativité, elle est protéiforme. Mmh. Effectivement, on va, à un moment donné, travailler avec des NFT, à un moment donné, travailler avec de l'IA, à un moment donné, travailler avec de l'interaction avec Twitch, avec les plateformes. Et le fait que ça soit protéiforme nous impose d'être curieux, de sans arrêt investir de nouveaux domaines.
Alors, cher Lionel, je te prends au mot et je te demande où vous en êtes dans votre agence sur l'adoption de l'IA. Il y a les IA textuelles, Jasper, Bard, Rapidly, ChatGPT, où est-ce que vous en êtes? Il y a les IA génératives sur les images, Midjourney et consorts, et puis il y a ce qui sort maintenant sur la vidéo, sur le deepfake, le champ semble infini, la culture, il faut l'adopter, il faut travailler, il faut expérimenter, oui. Vous en êtes où? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez déjà sorti ou est-ce que vous préparez des campagnes? Est-ce que vous arrivez à embarquer vos clients? Quelle est la réaction de vos clients? J'ai un milliard de questions à vous poser, on pourrait faire une émission sur l'IA. Mais,
je pense, oui, hein, oui.
Ouais, on pourrait faire une émission.
Ça risque d'être
long. Mais c'est vrai que ça vient bousculer les choses quand même.
Le débat où vous en êtes, je pense, si je fais le fil avec ce que je dis auparavant, on est tous dedans à fond. On est tous dedans à fond parce que...
Tous?
Oui, parce qu'on n'a pas le choix. En tout cas, les agences, on était obligés d'étudier. Aujourd'hui, nous, on considère très clairement l'IA comme une alliée créative. En se disant, oui, ça va certainement changer nos méthodes, mais c'est une alliée créative. Tout à l'heure, Pascal parlait de productivité. Il est vrai qu'il y a des gains de productivité sur certaines choses dans nos métiers qui étaient un peu besogneux, peut-être. Mais c'est aussi une alliée créative parce que ça nous ouvre un nouveau champ, très clairement. Là, on a sorti récemment une campagne pour Guerlain The Bottle. Bah, le pitch était relativement simple. Guerlain est venu nous voir en nous disant on va fêter les 170 ans du flacon de la bouteille de Guerlain, qui est une bouteille, un flacon symbolique. Ce qui nous rend triste, c'est qu'en fait, on a peu de photos d'il y a 170 ans. Je dis oui, pour cause. Donc, comment tu vas pouvoir recréer, matérialiser ces archives et tous ces grands passages lorsque Marie-Antoinette a offert à Napoléon à un moment donné une bouteille, etc. etc. Et on a utilisé l'IA pour recréer.
Un petit coup de Firefly et puis... Hop.
Exactement, on a créé à un moment donné 1800 images qui visaient à reconstituer les archives et à essayer de modéliser ça. Et je pense que là, je laisserai la parole à Tiffaine, à Pascal, mais on a tous ces exemples-là où on est en train de l'utiliser, c'est hyper exaltant.
Il y a aujourd'hui des comptes Instagram qui font vivre des personnages historiques plus vrais que nature, avec leur propre voix quand ils ont été interrogés, je pense à Churchill, mais puis il y a De Gaulle, et puis il y a Jeanne d'Arc, Et ça ressemble encore un peu à l'IA, mais dans quelques mois, on n'y verra plus que du feu. Et nous qui sommes des producteurs et des concepteurs d'images, waouh.
Non mais ça fait très très longtemps que l'IA, elle est dans nos agences quand même, on va se le dire, c'est pareil, c'est comme l'histoire du métavers, ça nous fait tous sourire parce que des mondes en open world, il y en avait déjà depuis des années et donc tout d'un coup, parce que quelqu'un a marketé le terme, c'est ressorti. Donc l'IA, ça fait très longtemps qu'on la pratique. Je pense que le point que tu soulignes, il est juste, c'est qu'en fait, il y a une accélération ces derniers temps, en particulier sur les IA génératives, effectivement, on voit bien, hein, image pour l'instant, vidéo, c'est encore pas terrible, mais sur l'image, c'est impressionnant. Je veux dire, donc nous, là, concrètement, chaque trois semaines, chaque mois, on refait un test de tous les outils sur le marché pour re-regarder quel est celui qui a le plus progressé, etc.
Et les campagnes, ma chère Tiffaine, alors les clients, est-ce que vous les embarquez?
Bon, les clients, ils sont... C'est pas qu'on les embarque, c'est que c'est exactement ce que racontait Pascal sur les NFT. C'est qu'évidemment, que c'est le sujet de discussion avec tout le monde. Et c'est là où je trouve que l'IA, elle va être intéressante. C'est à la fois, comme le disait Lionel, nous accélérer en productivité sur des tâches à faible valeur ajoutée. Du coup, remettre encore plus en lumière la place de l'idée. Parce qu'en fait, on se raconte que, voilà, exactement, que c'est super facile de créer l'image. Mais en fait, voir Tiffaine dans sa maison avec son chien, tout le monde s'en fiche. C'est qu'est-ce que je veux mettre dans l'image. Donc, qu'est-ce que je vais demander à la machine de me produire comme image. Donc déjà, il y a quand même il y a toujours l'idée à la base de notre histoire quand même dans nos métiers.
Mais
donc,
cette exécution peut nourrir quand même la conception. C'est-à-dire qu'il y a un aller-retour.
Exactement. Hein,
c'est une itération.
Et tu peux demander à la machine, ça peut t'emmener plus loin. Et donc, c'est exactement ce sur quoi on joue en ce moment avec les équipes. Ça fait, on ne va pas se le cacher, des reconversions quand même sur certains métiers. Donc, nous, on a une reformation d'un certain nombre de métiers, notamment tous ces profils qui travaillent aujourd'hui sur nos maquettes, donc aussi bien des maquettes de sites, etc., qui vont être accélérées par l'IA et donc qui doivent se former à ces nouveaux outils. On a évidemment des réticences dans les équipes, hein, faut être clair. Il y en a qui ont l'impression que leur métier va disparaître et qu'on va mourir. Donc, en fait, quand on les forme, ils se rendent compte que finalement, non, que ça les accélèrent sur des tâches qui étaient hyper besogneuses pour eux, qu'ils vont beaucoup plus rapidement, qu'ils s'amusent au passage. Parce qu'en fait, nos métiers, quand même, à la fin, on a beaucoup utilisé le mot terrain de jeu. Je pense que dans nos métiers, si on ne s'amuse pas, on est fichu. Je veux dire, effectivement, c'est des métiers qui sont moins valorisés que d'autres. On le sait, on ne va pas se le cacher. Donc, si on ne joue pas tous les jours, si on ne prend pas du plaisir, et l'IA générative ou l'IA textuelle, c'est aussi ça, le plaisir en ce moment dans les agences, c'est qu'on joue avec.
Pascal,
pour nos
pense,
clients, pour
ouais.
nous.
C'est totalement ça. Moi, j'ai jamais vu. Voilà, je fréquente le monde du digital depuis que ça existe, et j'ai jamais vu un phénomène aussi rapide, aussi prenant, aussi percutant que ça, puisque tout le monde est bluffé ou a été bluffé dès le départ sur les résultats d'IA, que ce soit texte, image, maintenant voix, où on voit des trucs absolument incroyables. Donc là-dessus, il y a pas de souci. On voit vite les tâches que ça va pouvoir faire dans les agences. Mais moi, en fait, un peu à l'image des NFT, j'ai envie d'aller un cran plus loin, j'ai envie de provoquer le truc, j'ai envie de créer, je sais pas, une Marcel IA, qui est une agence 100% IA, donc c'est que des prompteurs. Et ils te font des briefs, et ils te trouvent des angles avec les applis de texte, et puis ensuite, il y a d'autres prompteurs qui vont transformer ça en contenu, en image, en film, en radio, puis on peut aller partout.
Ça, c'est auto-GPT, stade d'après.
Et voilà, donc ça c'est pas de la science-fiction long terme, pour de vrai. Tu vois, pour de vrai.
Non, non, bah attends.
Et si tu regardes 80% de la production créative, contenu en France... Bah, tu peux te dire, il y a une grande partie, finalement, où j'ai pas de concept, quoi, où je magnifie un produit, où je mets une belle accroche, où je mets un prix, où je mets un call to action. Et ça, tu peux te dire, en tout cas, ça serait fou de se dire, c'est pas possible. Une IA pourrait le faire.
Mais justement, mon cher Pascal,
bien éduqué.
Alors, je rebondis là-dessus. Moi,
attends, je vais aller plus loin.
Vas-y, je t'en prie.
Je vais aller un cran plus loin.
Vas-y.
Puisqu'on a une équipe technique à l'agence, moi, l'enjeu que je leur dis, j'ai dit, nourrissez-moi une IA de tout ce que Marcel fait, de tout ce que Marcel aime, de toutes les campagnes mondiales qui nous ont fait rêver, de toutes les présentations d'agences incroyables, des discours de Hegarty, etc. Et voyons ce que ça donne quand on lui demande un brief.
Alors,
parce qu'aujourd'hui, ça te fait un brief de qualité médiocre, voilà, mais franchement, tu as une base, mais tu te dis si ça met vraiment l'intelligence générative dedans de ce que nous, on est, de notre côté hacker, de l'audace, de tout ce qu'on s'est raconté, toute notre culture. Bah, peut-être que ça donne des résultats intéressants.
Alors, cher Pascal, deux remarques et je vais
c'est
prendre la dernière.
Un peu, mais...
Non, mais justement, c'est pleinement d'actualité. Vous savez, je dirige une petite agence, mais moi aussi, je rêve d'avoir, et c'est sur le point de sortir, notamment chez Microsoft, je crois que la mise sur le marché va être début 2024, une IA que je peux nourrir avec les 1000, 1500, 2000 PowerPoint que j'ai fait en 15 ans, lui faire adopter mon style, ma charte graphique, ma façon de structurer, ma titraille, et l'interroger. Science-fiction ou pas ? Et j'en viens à ma deuxième question. Vos créatifs en agence, ont-ils peur, sont-ils enthousiastes ? Et ne craignez-vous pas, deuxième question, que les clients vous disent un jour, écoute, t'es gentil, là, ce que tu me faisais faire pour 1000 euros et machin, tu vas me le faire pour 100 euros, parce que, est-ce que vous avez cette crainte ? Donc, est-ce que vous constatez cette crainte chez vos équipes ? On va peut-être terminer là-dessus. Et parce que ça pose aussi la valeur de la création. Vous savez que c'est un éternel débat, la valeur de la création. Comment réagissez-vous là-dessus ?
Moi, j'adore cette question parce que je suis convaincu que la valeur d'une idée créative ne se paye pas la transpiration. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à valoriser une idée créative sur le temps qu'on y passe, on est tous morts. Parce que c'est pas la valeur de la créativité. La valeur de la créativité, est-ce que je suis convaincu, est-ce que mon client est convaincu que ce que je lui propose, cette idée-là, a une valeur qui va révolutionner son business, qui va transformer sa marque.
Mais on a souvent du mal, pardon de tout couper, on a souvent du mal à la valoriser, cette idée, cette expérience, ce travail.
On a souvent du mal à la valoriser parce qu'on n'a pas été formé pour ça, parce que, et Pascal, je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, mais parce qu'à un moment donné, d'être fier, de reconnaître nos talents, nos compétences, et aussi d'être peut-être parfois, alors il ne faut pas tomber dans l'arrogance, de se dire, cette idée-là, elle est extraordinaire. C'est notre travail d'identifier. Souvent, on dit la créativité, c'est très difficile à définir. Par contre, c'est super facile à reconnaître. Mais je crois que c'est ça. Quand on voit une idée à un moment donné, on dit celle-ci-là qu'on va présenter, elle est, c'est top, ça coche toutes les cases, ça va percer. Tu la valorises. Et pour moi, finalement, se dire que l'IA, à un moment donné, va révolutionner notre manière de priser notre métier, c'est avouer que jusqu'alors, on le prisait au temps passé, qui est pour moi une hérésie.
Vous savez, il y a un an, j'ai eu le plaisir d'accueillir Bertie Toledano, et on parlait justement de ses grandes idées. Et elle me disait, je fais court, hein, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, elle me disait, en réalité, pour qu'une grande idée se produise, il faut 5 étapes. Première étape, l'intégration culturelle, c'est-à-dire s'immerger à mort dans la problématique et l'univers de l'annonceur. Deuxième étape, un vrai travail créatif, donc d'itération, de contestation, etc. Troisième étape, comment on va storyteller les choses, comment on va raconter l'histoire pour susciter l'émotion. Quatrième étape, la qualité de la production. Cinquième étape, la puissance du plan média. Vous n'avez une grande idée que si vous cochez les cases sur tous ces trucs-là. Alors, non, Pascal, pas d'accord. Je vais le laisser réagir tout de suite. Et en fait, il y a beaucoup de belles idées qui, comme elle le disait, je reprends son expression, sont des trains dans la nuit, parce qu'à un moment donné, elle rate une des étapes de ce truc-là. Bah, dis-moi, Pascal.
Non, c'est, je pense, moi, je pense malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de règle. Voilà, il n'y a pas de règle. Je pense qu'une une idée magique, ça peut venir n'importe où, n'importe comment. Voilà, donc des fois, ça se fait dans des process tels que tu viens de raconter. Je m'immerge profondément dans la problématique. Je travaille en collectif.
Absolument.
Parce que j'échange, etc. Et moi, j'ai vu dans ma vie, si je prends l'exemple de peut-être la plus belle campagne qu'on ait jamais faite chez Marcel, c'était pour Orange, la Coupe du Monde féminine sur les Bleus.
Ouais,
c'est une idée qui a germé dans la tête des créatifs. Je l'ai vu quasiment sous mes yeux. En une heure, ils étaient deux dans un coin. Ils sont venus, ils me disent, tiens, on a une idée cool. Voilà.
Raconte pour les auditeurs. Rappelle-la rapidement.
C'est pour soutenir la Coupe du Monde féminine, l'équipe de France féminine de football pendant la Coupe du Monde, où ça commence par un trailer très footballistique qui s'adresse aux fans de football masculins, hein, je répète, c'est là où il y a un peu d'audace dans tout ça, où je vois les joueurs de l'équipe de France masculin dans un trailer, une bande-annonce super rythmée et spectaculaire, et puis tout d'un coup il y a une bascule où on te montre que en fait c'est truqué, qu'on a juste superposé des hommes par-dessus des femmes. Voilà. Donc c'est basique, ça raconte en 5 minutes, les créatifs nous la racontent. Franchement, en 2 minutes, on dit bah, c'est génie, quoi, touche à rien. Tu peux nous faire un petit montage pour montrer l'effet un peu pour qu'on puisse le présenter au client. Tu le présentes au client. T'as pas besoin de faire une caisse de strat, de machin, de l'enfumer, de tout ça. Ah ouais, super. Tu vas la faire, tu dois quand même la faire valider par la fédération. Ah ouais, super. Et en média, il y a zéro. Voilà. Et j'ai 400 millions de vues, 2 milliards et demi d'impressions dans le monde entier. Donc, franchement, oui, il y a des règles, mais ça dépend tellement de c'est une histoire de chimie, tout ça. Et je pense que oui, il y a des grandes campagnes qui sortent dans le process en 5 étapes indispensables. Et puis, je peux te démontrer le contraire 10 fois bien sûr. Campagnes qui sont nées comme ça. On va bouffer avec un créatif, je balance un sujet, puis tout de suite... Et c'est magique, hein, c'est pas des créatifs pour rien non plus. Non,
absolument, absolument. C'est bien de pondérer les choses. Y a-t-il un point que vous souhaitez rajouter, qu'on n'a pas évoqué, qui vous tient à cœur? Parce que le temps tourne, on arrive à la fin de l'émission. Je sais que Lionel, tu veux dire un mot sur le manifeste de la créativité qu'on a fait à la ACC. Est-ce que, cher Tiffaine, cher Pascal, cher Lionel, il y a un
non,
point
moi, j'aimerais juste dire qu'aux jeunes, puisque j'ai bien compris, cette émission s'adresse plutôt à des publics jeunes. Je pense que quand on intègre une agence, effectivement, il y a des choses importantes aujourd'hui à cocher, qu'on regarde peut-être pas il y a quelques années, qui est, c'est quoi les profils dans l'agence? Qu'est-ce qu'il y a comme profil dans l'agence? Voilà, sur le gaming, est-ce que vous avez de l'expertise sur l'IA, la tech, est-ce que vous avez de l'expertise sur l'e-sport, enfin, sur tout ce qui fait quand même les réseaux sociaux, est-ce que vous avez un head of social, est-ce que vous avez de l'expertise là-dedans? Parce que ça va être ça le métier demain. Et les jeunes aujourd'hui, bah, ce n'est pas l'école qui leur a appris tout ça forcément, c'est leurs premières expériences, alternance, emploi, etc. Donc, c'est vachement important.
Je redis avec mes mots à moi ce que tu viens de dire. Les agences, même les petites, sont des formidables écoles de formation. Au métier des affaires, au métier du travail en collectif, et puis effectivement sur toutes ces technologies, ces champs d'expression créative, c'est absolument génial. Tiffaine.
Et je peux juste ajouter un dernier mot, mais je pense que pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal, je pense que pareil pour tous ces jeunes qui, j'espère, viendront rejoindre nos agences. Je pense que c'est des endroits où on l'aura compris, je pense, tout au long de cette discussion, contraints de se réinventer en permanence. Je pense que c'est ce qui fait la magie de nos métiers. Et c'est ce qui fait que si moi, aujourd'hui, je sortais d'école, là où je suis arrivée un peu par hasard, pour être tout à fait honnête, dans ce métier, je pense que je me dirais, c'est une bonne façon de démarrer dans la vie que d'aller à un endroit qui, par définition, pour survivre, parce que quand on se parle de la valeur, là maintenant, à l'aune de l'IA générative, la question qu'on pose, c'est la survie de nos agences. Donc en fait, on n'a jamais le choix que de se réinventer et d'intégrer le plus rapidement possible les transformations, les nouvelles technologies, les changements de comportement des gens pour pouvoir préserver nos agences. Et donc, ce terrain de jeu-là, il est chez nous et qu'ils viennent, on sera ravis de jouer avec eux sur ces terrains-là.
C'est tellement beau ce que tu dis que j'ai presque envie que ce soit le mot de la fin. Je dois, parce que l'heure tourne. Lionel, tu veux dire un petit mot rapidement
deux mots, oui, à la CC, donc la délégation digitale, on est 40 agences à se réunir et on a souhaité justement qu'il va finalement dans la direction de ces discussions de produire un manifeste de la créativité digitale, c'est-à-dire on est convaincus. Toutes les agences de cette délégation sont convaincues que finalement, le digital, c'est le moteur d'une créativité plus hybride. Et il nous a paru important, d'en faire un manifeste. Ce manifeste, vous le trouverez sur le site de l'ACC, c'est manifeste.acc.fr. Et en fait, qui est un recueil des best cases qui, pour nous, on a constitué un petit jury qui, pour nous, constitue finalement les cas de nos agences qui utilisent, à notre sens, le mieux justement cette interactivité, cette créativité hybride, selon 6 grandes thématiques, parce qu'il fallait les recueillir un petit peu. Et voilà, et on s'engage un petit peu dans cette ode à la créativité digitale sur les prochains mois.
Eh bien écoutez, je vous encourage à lire, donc je rappelle l'URL, manifeste.acc.fr, je vous encourage à lire et peut-être que ça vous inspirera. On arrive à la fin de notre émission, merci à vous de l'avoir écouté, on espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que vous êtes invités à liker, à commenter, à en parler autour de vous, puisqu'on a besoin de votre soutien. Merci à Frédéric Hamelin, à Rémi Jeannot de Copacabana Productions. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'Association des agences conseils en communication, on ne le dira jamais assez. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites et sur Beyond, le site dédié au métier de la com, beyond-talent.com. Salut à toutes et à tous, bonne journée, merci à vous chers amis.
Bonne journée.
Très très bon moment.
Merci. Bonne journée.